Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête en bon gaulois? C'est un peu la question que se posent aujourd'hui les Français alors que l'été approche et que chacun redécouvre les joies d'une vie plus détendue. Beaucoup sont inquiets de la crise économique qui se dessine, une crise qui semble commencer par une véritable révolution. Puisque c'est la puissance publique qui occupe en ce moment le devant de la scène, soignant un système économique blessé à coups de milliards. Hérésie et folie, crient les libéraux, enfin, disent les partisans d'un interventionnisme fort. Et nous, au milieu de cela, il faut l'avouer, ne comprenons pas toujours grand-chose. Un autre capitalisme est-il possible? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler et nous prendre par la main, si je puis dire, Marie-Christine Monnoyer, vous êtes professeure émérite en sciences de gestion, secrétaire générale des Semaines sociales de Toulouse et titulaire de la chaire Jean Rodin. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Cyr, vous êtes professeur d'économie et président honoraire de l'Université Toulousain Capitole. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous, Jean-Paul Vigier, qui est cofondateur de Finansol et chroniqueur sur cette antenne. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, je suis également président honoraire de la Fédération européenne de banques éthiques.
Très bien. Vous faites bien de le préciser. Bonjour à vous. Et vous êtes confiné encore en région parisienne, puisque oui. La règle des 100 km s'impose encore. Et c'est pour ça que vous êtes par téléphone. Alors, vous avez bien du pain sur la planche, si je puis dire, puisque vous allez devoir un petit peu nous aider à y voir clair dans ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse. À gros traits, on comprend que la situation est grave, on comprend que les milliards tombent. Cela nous rassure en partie. Si on devait commencer tout simplement par les comparaisons que l'on peut lire, des précisions sont apportées dans les médias, mais on va essayer de partir, on va dire, du principe que certains ne suivent pas pied à pied l'actualité économique parmi nos auditeurs. Bruno Cyr, crise de 29, crise de 2008, crise de 2020, est-ce la même crise ou sont-ce des crises complètement différentes?
Alors, par l'ampleur, ces crises sont comparables. 29 a été une secousse considérable sur laquelle on n'a pas donné les bonnes réponses, donc on a aggravé la crise. C'était une crise de la consommation. Et donc, elle avait cette spécificité. 2008, c'est une crise des banques. C'est une banque, Lehman Brothers, qui est en situation de cessation de paiement, de faillite. Et donc, il a fallu sauver les banques. Et il y a eu une très grosse ampleur aussi, mais on a su corriger le tir de façon assez efficace au niveau international. Et la crise actuelle est différente des deux précédentes parce qu'en fait, c'est une crise des entreprises. On a arrêté l'activité économique et donc on a mis en situation les entreprises d'être en faillite. Cette fois-ci, ce n'est pas les banques. Et donc, il faut absolument aujourd'hui sauver les entreprises. Et ça, c'est ce que vont essayer de faire, je pense, toute la communauté internationale. Mais c'est un défi qui est nouveau par rapport aux deux précédentes.
Marie-Christine Monnoyer, sur l'ampleur de la crise, je ne me suis pas ressorti les chiffres de 29. On dit aujourd'hui que pour la France, ça sera donc entre moins 6 et moins 7% de croissance du PIB. Que les pertes à l'échelle de l'Union seraient de 2000 milliards. Est-ce qu'on peut dessiner une ampleur de la crise sans trop faire de politique fiction? On voit circuler aussi le chiffre de 1 million de chômeurs de plus en France à la fin de l'année.
Alors d'abord, je me garderai bien de dire combien il y aura de chômeurs à la fin de l'année. Ça dépend en particulier justement de la réaction et de l'efficacité de la réaction vis-à-vis des entreprises qui sont touchées. Ça dépend aussi de la façon dont la communauté européenne en particulier, c'est-à-dire l'ensemble des pays, vont harmoniser leurs discussions et leurs activités. L'exemple typique, c'est le tourisme. Et donc, selon la façon dont on va se débrouiller par rapport à l'ouverture des activités touristiques, on aura plus ou moins de chômeurs dans ce domaine. Et donc, plus ou moins en amont de conséquences sur les autres activités. Donc, c'est lourd, c'est très lourd.
Je ne vais pas vous interroger à chaque fois hein, sur chacune des questions, tous les trois. Je vous propose de commencer à nous éclaircir, à nous aider à y voir clair quant aux milliards qui semble pleuvoir. Jean-Paul Vigier, alors je cite quelques chiffres. Bruno Cyr, juste avant que l'émission commence, donner ce chiffre, c'est 2300 milliards pour l'Europe, si on compte les différentes annonces cumulées. On a vu circuler le chiffre ou l'annonce donc, de 4000 milliards pour les États-Unis. L'Allemagne qui a elle-même lancé un plan de relance de 1100 milliards. D'où viennent ces milliards, Jean-Paul Vigier ?
Ils viennent forcément des États, c'est-à-dire soit des milliards qui n'existent pas, soit des milliards qu'il faut créer. Mais je crois que ce qu'on peut dire de manière plus claire quand même, c'est deux sources de financement. La première, c'est la Banque Centrale Européenne qui a décidé de consacrer 750 milliards pour le rachat des dettes des États, c'est-à-dire en fait par la création de monnaie. Il y a déjà cela qui a déjà été annoncé il y a quelque temps. Et puis, il y a actuellement le grand projet européen qui a été annoncé hier par la présidente de la Commission, c'est-à-dire, au fond, un système tout à fait nouveau. C'est la Commission qui va emprunter, effectivement, sur les marchés, 750 milliards, qui les redistribuera soit sous forme d'investissement, disons, de subvention, soit sous forme de prêt, et elle-même, garantie par les États, et elle-même, rembourserait ces emprunts par des impôts européens qui seraient mis en place par rapport aux GAFA en particulier ou par rapport aux produits qui entreraient dans l'Union européenne et qui seraient contraires, disons, au respect de l'environnement.
Alors juste, Jean-Paul Vigier, si vous permettez, vous allez juste reprendre ces deux points en les redétaillant. Si on s'arrête sur le premier, la création de monnaie, vous citez donc cette annonce qui a été la plus rapide de la part de l'Union européenne, donc de rachat de 750 milliards de dettes. Quand on dit que la BCE, la Banque Centrale Européenne, émet de la monnaie, expliquez ça pour les nuls que nous sommes, c'est-à-dire on fait marcher des planches à billets et puis il y a de l'argent qui est créé.
Exactement. C'est-à-dire que le rôle de la Banque centrale, entre autres, c'est de maintenir les prix, mais également, elle est sortie d'une certaine manière depuis 2008-2009 de ce rôle-là précis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la Cour suprême allemande qui l'a condamnée, enfin, du moins qui lui a posé des questions. Mais de ce fait, la BCE crée de la monnaie, c'est évident, ce qui amènerait normalement une inflation possible. Mais pour le moins, personne ne semble redouter cet inconvénient. Donc, effectivement, la Banque centrale crée de la monnaie, bien évidemment, pour racheter les dettes des États, ce qui est un moyen, d'une certaine manière, de subventionner les États.
Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, si vous deviez le reprendre avec le même souci de pédagogie. Donc là, vous parlez du plan de relance donc européen qui a été énoncé par la Commission européenne hier. Là, on emprunte de l'argent sur les marchés financiers. Donc cet argent existe, si j'ai bien compris. Si je traduis, on l'emprunte et on l'espère. Et on espère pouvoir les rembourser un jour. Est-ce ça ?
C'est ça. Mais rembourser très tard, hein, c'est-à-dire dans les années 2030, 2035, etc.
2028.
Mais je crois qu'il y a deux éléments là qu'il faut voir. Le premier, c'est que y a-t-il de l'argent pour emprunter d'aussi grosses sommes ? Et deuxièmement, quel est le taux de remboursement ? La Commission européenne a une excellente image dans le domaine financier, puisque elle peut se garantir elle-même d'une certaine manière, donc elle peut emprunter à des taux très bas. Mais par contre, est-ce qu'il y aura des possibilités d'emprunt aussi grands ? Je n'en sais rien. C'est vraisemblable, mais ce n'est pas sûr. Et en tout cas, la deuxième crainte qu'il peut y avoir, c'est que ce projet qui a été présenté ne soit pas complètement accepté tel quel ou est par le Parlement européen et par le Conseil européen. Donc, on a de grandes chances de penser, puisqu'il ne fait que suivre la proposition de Macron et de Merkel il y a déjà une semaine, que ce sera vraisemblablement négocié et vraisemblablement accepté, peut-être et sûrement amendé. Voilà ce qu'on peut dire actuellement. Mais en tout cas, c'est certainement quelque chose de tout à fait nouveau, parce que c'est la première fois, je crois que c'est ça qui est très important, c'est la première fois que, en plus du budget ordinaire de l'Union, qu'on est en train de discuter actuellement, il y a là la création d'un budget supplémentaire qui serait financé à ce moment-là par l'emprunt et par la création d'impôts européens,
alors,
ce qui est tout à fait nouveau et jusqu'à présent n'a pas existé.
Bruno Cyr et Marie-Christine, si vous deviez continuer à prolonger le propos de Jean-Paul Vigier, toujours en essayant de nous expliquer comment ça fonctionne et puis quelle est la nouveauté. Bruno Cyr.
Oui, deux remarques. D'abord, clairement, on est en train de faire beaucoup de dettes. C'est pas,
Il y en a déjà beaucoup. J'ai vu 250 000 milliards de dettes. Alors, c'est-à-dire 300% du PIB mondial, ai-je lu.
C'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, vous avez en Europe, parce que on parle de l'Europe, hein, les États-Unis ont une politique, on ne peut pas trop comparer ce qui se passe aux États-Unis avec l'Europe. Donc parlons de l'Europe. En Europe, le problème, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau d'endettement aujourd'hui. En gros, pour faire simple, il y a les pays du Nord, hein, c'est-à-dire l'Allemagne et quatre pays autour, c'est l'Autriche, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, qui sont des pays dits frugaux. C'est-à-dire des pays qui sont relativement peu endettés.
C'est-à-dire autour de entre 40 et 60% de dette grand maximum, c'est ça ?
Voilà.
Du pays du produit intérieur brut.
Et puis il y a l'Europe du Sud, dont fait partie la France, mais avec des niveaux d'endettement en Italie, en Espagne, en Grèce, on va laisser la Grèce de côté, mais en Italie et en Espagne, qui sont quand même des poids lourds en Europe, qui sont très élevés par rapport à l'Europe.
Autour de 100%.
Voilà. Et voire plus même en Italie
plus
et en Espagne.
Plus maintenant, oui.
Donc la question, c'est jusqu'à maintenant, l'Europe du Nord, entre guillemets la fourmi de la fameuse fable de La Fontaine, est-elle prête à payer pour l'Europe du Sud en mutualisant la dette? Parce que si on émet un gros paquet de dettes, ça veut dire en fait qu'on ne pourra rembourser au niveau européen que si les gens qui ont une capacité à le faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop endettés aujourd'hui, acceptent de le faire pour les autres. Donc c'est ça qui est totalement nouveau dans le plan qu'a annoncé hier Mme von der Leyen. C'est qu'elle propose un système d'union des transferts. C'est-à-dire qu'effectivement, on va mutualiser la dette au niveau européen et ça suppose que l'Europe du Nord accepte de payer pour l'Europe du Sud. Et c'est pour ça que ce qu'on disait précédemment est tout à fait juste. Est-ce que ce projet annoncé hier va être accepté par l'Europe du Nord? Alors, par l'Allemagne, c'est déjà acquis, oui, puisque l'Allemagne
avait présenté un plan avec la France.
Avec la France.
Les autres, rien n'est moins sûr.
Mais les quatre autres pays, c'est là que ça va jouer, en fait.
Alors, il y aurait encore beaucoup de questions. Peut-être, une pour poser surtout les questions essentielles. Marie-Christine, au début de cette émission, on peut avoir l'impression, et j'ai souvenir d'une chronique de Jean-Paul Vigier à cette antenne, pour faire un petit cocorico, laissant entendre que Emmanuel Macron faisait sa révolution. Il y a encore peu de temps, il était inimaginable, ne serait-ce que notre président fasse de tels choix économiques. On a l'impression que le libéralisme est, permettez-moi l'expression, cul par-dessus tête. Que se passe-t-il et tout le monde est-il en train d'évoluer, Marie-Christine Monnoyer?
Je crois que ce que vient de dire Bruno Cyr le met en évidence. C'est la première fois que l'Union européenne se groupe, que la Commission se groupe pour pouvoir emprunter et ensuite se faire rembourser par des moyens divers. C'est la première fois qu'on décide ensemble que les pays frugaux vont pouvoir aider peut-être les pays moins frugaux. Donc, ça, c'est une révolution. Donc, au fond, que nos politiques soient amenées à se dire « il faut changer des choses », c'est normal. Et on va sans doute parler dans la seconde partie de l'émission de ce que nous devons aussi changer. Donc, quelque part, c'est une transformation extrêmement profonde. Donc, il vaut mieux que nos politiques se disent qu'il faut revoir nos copies.
Jean-Paul Vigier, avant qu'on fasse une première pause, pour faire écho à votre chronique, Macron fait-il sa révolution? Même question, et quelle serait votre réponse?
Il y a deux points. Quand on entend le président de la République dire que quoi qu'il en coûte, on maintiendrait l'emploi, autant que faire se peut avec le chômage partiel, et d'autre part, on ouvrirait entièrement les vannes du crédit pour les hôpitaux. Quoi qu'il en coûte. C'est tout à fait contraire à la politique précédente, où au contraire, on freinait autant que possible le développement des hôpitaux. Deuxièmement, j'ai entendu, je pense que je ne suis pas le seul, le président de la République dire « on ne peut plus appliquer les règles du marché à tout ce qui touche le service public ». Et d'autre part, qu'il fallait certainement revoir notre système économique qui, a-t-il dit, est à bout de souffle. Donc, voilà, je n'ai pas à interpréter ni ce que fera le président de la République, ni ce qu'il a dans la tête, bien évidemment, mais je prends acte de ces deux points. Un qui est réel, on a ouvert les vannes, aussi large que possible, en s'endettant, bien sûr. Et deuxièmement, il y a effectivement dans les discours du président des points qui, quand même, indiquent, au moins dans les mots, une inflexion réelle de sa pensée.
Allez, on va faire une première pause et puis dans la deuxième partie, on donnera un petit peu la parole à un invité qu'on a essayé d'avoir, un auteur, pardon, Gaël Giraud, qui est donc un économiste qui a de plus en plus le vent en poupe, en tout cas qui est de plus en plus invité dans les médias, auteur d'un livre, entre autres, Illusions financières, et qui, pour faire écho à ce que disait Jean-Paul Vigier, souhaite qu'un certain nombre de choses soient aujourd'hui considérées comme des biens communs, le travail, la terre, mais aussi les liquidités, les crédits qui sont, dit-il, comme les deux facettes de la monnaie. On vous retrouve dans quelques instants. Emmanuel Pella. Un autre capitalisme est-il possible ? C'est, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec nous pour essayer de nous aider à y voir clair au milieu de cette crise économique qui commence. Je le dis en souriant, mais ce n'est pas très drôle. Marie-Christine Monnoyer, vous êtes professeure émérite de sciences de gestion, secrétaire générale des Semaines sociales de Toulouse et titulaire de la chaire Jean Rodin. Bruno Cyr, vous êtes professeur d'économie, président honoraire de l'Université Toulousain Capital, et Jean-Paul Vigier, cofondateur de Finance Sol est donc président honoraire de la Fédération européenne des banques éthiques. Vous avez dit donc qu'il se passait quelque chose d'inédit aujourd'hui, donc entre autres en Europe. On aurait pu citer aussi le New Green Deal, ce grand projet européen de transition écologique qui avait été donc annoncé par la Commission européenne à hauteur de 1 000 milliards sur 10 ans. Si j'ai bien compris, là aussi, il fallait trouver des sous et trouver des manières de financer ce projet. Gaël Giraud, que je citais avant, qui est donc chercheur au CNRS, qui est jésuite, normalien, qui a écrit donc un certain nombre de livres et qui passe beaucoup dans les médias, que je citerai à plusieurs reprises dans cette deuxième partie d'émission, dit qu'il faut inventer un nouveau modèle de croissance. Il ne faut pas chercher à décroître. Alors, Marie-Christine Monnoyer, quel est ce monde économique qui se dessine? Est-ce la fin d'une certaine croissance? Doit-on faire le deuil d'une décroissance et juste réinventer un New Green Deal?
Bon, c'est une question à 1 000 euros.
1 000 euros, ça va, c'est pas beaucoup.
Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, à chaque fois que nous avons augmenté notre PIB, nous avons aussi beaucoup augmenté notre consommation de pétrole et nous avons aussi beaucoup augmenté nos gaz à effet de serre. Et donc, il y a un lien qui est maintenant assez bien connu, j'ai des jolies courbes si vous voulez, qui met en évidence que la croissance a beaucoup de difficultés à être verte. Et donc, dans la situation actuelle, où nous sommes à la fois en crise écologique et en crise économique, il nous faut trouver un chemin qui permette à la fois de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut verdir notre production et comment est-ce qu'on peut conserver nos emplois et le travail pour tous. Et donc, cette réflexion-là, elle est évidemment extrêmement compliquée et elle suppose que on sécurise la vie des entreprises, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est le premier point, je dirais, immédiat, mais qu'en même temps, pour reprendre les mots du président, mais qu'en même temps, on repense l'organisation de la production pour que ce qu'on appelle les chaînes de valeur et les circuits d'approvisionnement soient modifiés pour nous sécuriser quant à nos approvisionnements, éviter des augmentations de coûts absolument faramineuses, parce que si on produit en France, on produit 10 fois plus cher que si on produit en Chine, et donc les entreprises ne vont pas tenir, ou les ménages vont être dans la rue. Donc ce mélange entre les deux est d'une grande complexité.
Alors est-ce que vous pouvez prendre un exemple, Marie-Christine Monnoyer, à l'heure où l'on parle donc d'une relocalisation, d'une réindustrialisation, on entend de votre côté, donc il faut inventer non seulement une nouvelle manière donc de consommer, mais aussi de produire. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, un produit
Écoutez, étant donné que quand on est à Toulouse, les premiers produits auxquels on pense, ce sont les avions. Parce que pour nous, aujourd'hui, les avions, il n'y en a plus dans l'air. Et toute la réflexion aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que la production d'avions n'a plus de sens? Ou est-ce qu'il faut produire des avions autrement? Ou est-ce qu'il faut produire d'autres avions? Et ceci est possible. C'est possible si on le décide, si on le travaille. Hier, le Chief Project proposait dans son webinaire... Le Chief Project, c'est une équipe de chercheurs qui se creuse beaucoup la tête sur chaque secteur d'activité pour voir comment on peut transformer la production pour qu'elle soit plus verte et donc qu'on continue à avoir une véritable production, croissance ou pas croissance, mais que notre PIB ne s'effondre pas. Eh bien, on peut imaginer des avions qui seraient prêts en 2030, dans lesquels le produit en lui-même serait à la fois moins méchant sur le plan de l'utilisation du pétrole ou de la construction de l'avion, moins gourmand en énergie, etc. On peut le faire. C'est pas pour demain, mais il faut le penser aujourd'hui pour qu'il vole en 2030.
Bruno Cyr, sur ce même thème, je prolonge ma question en citant toujours Gaël Giraud, qui dans une interview au Figaro disait « On ne peut pas reconduire le monde d'hier fondé sur la thermo-industrie et des économies de court terme faites sur le dos des services publics. » Il donnait quelques pistes. Demain, les grands projets industriels pourraient être rénovation thermique des bâtiments, la voiture électrique, passer à l'hydrogène dans les modes de transport, l'agriculture écologique de proximité, les solutions existent-elles, Bruno Cyr?
Avant de répondre, je fais un petit sujet à mon, mais qui est directement aligné sur votre question. Là, on est en train d'essayer de parer au feu pour sauver des entreprises. Airbus en fait partie. Bien évidemment, il suffit de regarder dans l'air pour voir qu'il n'y a plus d'avions et ça pose un problème énorme sur la chaîne de production. Donc on est une région, un pays qui va être énormément
impacté. C'est presque la moitié des emplois en Occitanie. Hein.
Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une urgence et on va se focaliser là-dessus. On est en train d'injecter des milliards et des milliards. On a dit environ 2300 milliards rien qu'au niveau européen et encore plus au niveau Amérique du Nord, etc. Mais il y a un grand risque là-dedans. Il y a un grand risque, c'est que, si vous voulez, dans les solutions, on va accorder des crédits, des subventions aux entreprises, on va payer du chômage partiel, on va se focaliser là-dessus. Et on va mettre de côté les grandes réformes structurelles nécessaires. C'est ça le risque. Et on a déjà commencé à le faire en France.
Alors, c'est-à-dire ?
Eh ben, par exemple, on nous a annoncé que la réforme des retraites et de l'assurance chômage était différée. Or, ça, ce sont des réformes structurelles que ce pays a beaucoup de mal à prendre à bras-le-corps et qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et j'ai peur qu'il en soit de même pour la transition écologique. C'est-à-dire qu'effectivement, les grandes réformes structurelles, on dit, eh ben, écoutez, il y a d'autres priorités, donc on met tout ça de côté et on reviendra s'en occuper quand tout ira mieux.
Pourtant, on a l'impression que l'État conditionne son aide, en tout cas, c'est ce qu'on a vu sur le secteur automobile, à cette transition. Les 8 milliards qui ont été annoncés pour le secteur automobile seraient conditionnés à...
Oui, parce que on voit bien que...
Le développement des véhicules électriques.
La voiture électrique, mais... qui ne règle pas le problème de la transition écologique. Hein. Il faut se méfier parce que c'est très polluant, les voitures électriques aussi. Donc tout ça, il y a beaucoup de problèmes qui sont très compliqués à régler et qu'on va plus ou moins différer quand même. Parce que conditionner, évidemment, quand on voit Renault a un peu raté le virage de la voiture électrique, les Japonais, les Coréens ont une grosse longueur d'avance là-dessus. Donc on va essayer de rattraper le temps perdu. Mais ça ne va pas régler les problèmes de la transition écologique, de rouler avec des voitures électriques. Donc, je pense qu'il y a des problèmes structurels qui sont beaucoup plus importants que ça. Donc, moi, ma crainte est là. Alors, maintenant, comment faire dans le contexte actuel et quelles sont les erreurs à éviter? D'abord, l'erreur, c'est de croire qu'on peut tout relocaliser. Ça, la mondialisation a des vertus et c'est une erreur de s'imaginer qu'il faut arrêter la mondialisation. La pandémie que nous avons, elle n'a rien à voir avec la mondialisation. Il y a eu des pandémies tout au long de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs,
elle l'a favorisée quand même, non ?
Absolument pas. Non, mais ça, c'est totalement indépendant.
Mais si personne n'était allé dans le Wuhan, la pandémie serait restée dans le Wuhan, non ?
Mais vous savez que Saint-Louis est mort de la peste. Je veux dire, c'est bon. Donc, les grandes épidémies ont toujours traversé les frontières. Et d'ailleurs, qu'il y ait ou pas des échanges, prenez la Corée du Nord, qui est le pays aujourd'hui le plus fermé à tous les échanges. Mais ils ont été aussi impactés que la Corée du Sud. Donc, croire qu'il n'y aurait pas eu de mondialisation, il n'y aurait pas eu de pandémie, ça, c'est une erreur historique, c'est une erreur d'analyse. Ça n'a rien à voir. Les pandémies ont toujours existé, avec ou sans les avions, le progrès industriel, etc. Donc ça, c'est un faux débat. En revanche, la mondialisation a des vertus, c'est qu'on va réussir à résoudre la difficulté de cette pandémie beaucoup plus vite, sans doute, que grâce à la mondialisation, que s'il n'y avait pas eu la mondialisation. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en commun, au niveau mondial, toute la recherche pour... justement arriver à la production d'un bien commun qui sera le vaccin contre cette épidémie. Et si ce sont les Chinois qui trouvent le vaccin, ben, croyez-moi, ils l'ont dit, ils vont tout de suite en faire profiter le reste de l'humanité. Si ce sont les Américains, ils vont tout de suite en faire profiter le reste de l'humanité, etc. Donc la mondialisation a aussi des vertus, et notamment celle-là. Alors ça, c'est un faux débat. Donc, en revanche,
Rapidement, pour vous faire circuler la parole, Bruno Cyr, parce que là, vous êtes un petit peu long, si je peux me permettre.
Pardon. En revanche, qu'est-ce qu'il faut... sur quoi il faut réfléchir, et je rejoins ce que disait Mme Monnoyer, il faut réfléchir sur quels sont les domaines stratégiques où on doit garantir une indépendance. Sur ces domaines-là, il faut sortir des logiques de marché et accepter de payer plus cher en disant « ça, on a intérêt à le faire chez nous parce qu'on veut être indépendant ». Et pour le reste, il faut éviter d'avoir un seul fournisseur. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire confiance à la logique de marché parce que c'est ce qui nous garantit des prix bas et auxquels tout le monde pourra accéder. Mais il faut ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit trivialement. En ayant un seul fournisseur, il faut diversifier les chaînes d'approvisionnement. C'est ça, c'est vers ça qu'on va aller.
Jean-Paul Vigier, je vous propose qu'on passe à un autre sujet. Peut-être que vous pourrez répondre d'une certaine manière quand même à ce premier angle de cette deuxième partie. J'aimerais qu'on parle de la finance. Toujours ce Gaël Giraud. Que je cite au long de cette émission, qui donc a écrit entre autres ses livres « L'illusion financière », dit qu'il faut sortir de la dépendance mortifère de nos économies à l'égard de la finance dérégulée. Est-ce le bon moment, Jean-Paul Vigier ? Peut-on imaginer que c'est une réforme qui va avoir lieu quand on n'est pas aussi, on va dire, calé que vous? On a l'impression que d'une certaine manière, c'est l'inverse qui se passe, puisqu'on s'endette plus que jamais et donc on se rend dépendant de cette finance. Est-ce que diriez-vous sur ce sujet, Jean-Paul Vigier?
Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet le plus préoccupant. Je crois que on se rend compte maintenant, et on est tout à fait qu'au début, que les conséquences de la pandémie et surtout du confinement ont été infiniment pires que la maladie elle-même. C'est-à-dire que de proche en proche, tout se fermant, tout s'arrêtant, la faim dans le monde, y compris dans nos propres pays, est en train de prendre de plus en plus d'importance et le FMI, par exemple, aussi bien d'ailleurs que le programme des Nations Unies pour le développement, table sur une augmentation de 80 millions de personnes qui vont mourir de faim de manière supplémentaire. Autrement dit, je crois que nous avons en face de nous déjà une décroissance très forte qui est lancée, bien malgré nous. Et que par conséquent, le problème n'est plus maintenant, je crois, de savoir ce qu'on peut faire en France, s'il faut faire ceci, s'il faut faire cela, etc. Le problème est de se dire maintenant comment, au niveau mondial, va pouvoir se résoudre ce problème fondamental, c'est-à-dire que l'augmentation considérable des inégalités. Or, les deux grands problèmes que nous avons devant nous, c'est d'une part la transition écologique, qu'on oublie, je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure M. Cyr, et deuxièmement, c'est le refermement de l'éventail des inégalités. Parce que c'est là que actuellement les plus grands mouvements sociaux peuvent se produire actuellement. Et qui risqueraient très facilement d'être incompressibles. Donc voilà, je crois que là, nous sommes dans un problème qui est infiniment plus vaste que de savoir s'il faut emprunter par emprunter. La question est de savoir que c'est un problème qui est devenu mondial, qui a échappé à tout le monde, et qui, par conséquent, risque de se retrouver assez vite contre, je dirais, les pouvoirs en place, etc., si aucune solution d'aussi grande envergure possible n'est pas prise. Ça commence à se faire sur le plan européen, on en est très loin sur le plan mondial.
Mais alors, je repose ma question, parce que je suis un petit peu têtu, pour faire écho à cette question des inégalités. Malgré tout, si on reprend un grand mouvement social qui a été celui des Gilets jaunes en France, ce qu'on entendait aussi sur les ronds-points, c'est qu'il y avait une partie donc, des Français qui étaient écœurés par le sentiment de participer à un système financier, un système économique qui leur échappe et que les entreprises ne seraient pas forcément gouvernées sur le long terme. Je ressors des poncifs, hein, mais c'est afin que vous nous éclairiez, parce que il y a, on va dire, elles sont tenues par une rentabilité financière qui rend malade notre économie. Donc ça peut contribuer à développer cette grogne sociale.
La crise de 2008 a été causée par, justement, des extravagances financières. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le mécanisme financier économique a été soumis d'une certaine manière à la finance et qui effectivement a créé les, comment dire, les catastrophes financières qu'on a connues il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Donc ça, je crois que c'est un des
Jean-Paul premiers... Vigier, on va
ça,
vous...
ça n'a pas été changé fondamentalement.
On va vous rappeler parce qu'on ne vous entend pas très bien. Marie-Christine Monnoyer, sur cette question, n'est-ce pas aussi le moment pour la puissance publique qui aujourd'hui est sur le devant de la scène de se saisir de cette question que l'Église aussi appelle de ses voeux, hein. On l'a largement entendu, on l'entend régulièrement dans la bouche du pape, je crois qu'il l'a même redit à l'occasion de cette crise, et il le dit en long, large et en travers dans la date aussi, il faut que l'économie arrête d'être pieds et poings liés face à la financiarisation de l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il est sûr que, je crois que maintenant tout le monde est d'accord sur ce point, les avantages importants qui sont donnés aux actionnaires dans la répartition de la richesse, d'une part, les décisions qui sont souvent prises à très court terme, d'autre part, et qui favorisent celui qui a le capital, rendent extrêmement difficile la pérennisation de la situation économique d'un grand nombre d'entreprises et donc de leurs salariés. Donc cette révision du poids des actionnaires dans la vie des entreprises, elle paraît tellement indispensable que nombre de grandes entreprises, en particulier celles qui commencent à suivre les éléments de la loi Pacte, prennent leur distance par rapport au partage de la richesse réalisée chaque année.
Bruno Cyr.
Oui, deux points me paraissent devoir être dits quand même. Premier point, à l'heure actuelle, qui a payé les pots cassés des conséquences économiques de cette pandémie? Ce sont les actionnaires.
C'est vrai.
Donc, si vous voulez, il faut faire la part des choses. Les actions...
La population ne s'en est pas aperçue.
Oui, pour l'instant, les ménages, hein, ce qu'on appelle les ménages en économie, c'est-à-dire vous et moi et tout un chacun, n'ont pas souffert. Hein. Au contraire, ils ont beaucoup épargné. Hein, parce qu'ils ont moins consommé.
55 milliards, on dit, d'épargne.
Et pour l'instant, il n'y a pas eu de plans sociaux, etc., puisqu'on a payé le chômage partiel, on subventionne les entreprises, etc. Qui a trinqué pour l'instant? C'est le capital. Ce sont les capitalistes.
Mais les Français pourraient dire pour une fois.
Voilà. Donc, si vous voulez, il ne faut pas...
C'est l'exception qui confirme la règle, non?
Non, mais ça veut dire que c'est un système où, effectivement, quand, dans la finance, on prend des risques, il faut assumer ces risques. Et là, en ce moment, les financiers ont pris des risques et ont eu une rentabilité qui est à la hauteur de cette prise de risque, parce que vous savez, en finance, il y a une loi de base qui est que si vous voulez être rentable, il faut prendre des risques, mais de temps en temps, le risque tombe et vous perdez de l'argent. Or, en ce moment, il y a beaucoup de gens, de capitalistes, qui font faillite. Deuxième point qu'il faut noter, c'est que le capitalisme moderne n'a rien à voir avec le capitalisme du 19e ou de la première moitié du 20e siècle.
En Europe.
Oui, en Europe et en Amérique du Nord. Ce sont des fonds de pension, pour l'essentiel, qui agissent, c'est-à-dire des petits épargnants qui ont placé de l'argent dans des fonds pour leur retraite. Puisqu'il n'y a pas, sauf en France, mais dans les autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord, le système de retraite n'est pas un système d'État, c'est un système par des billets de fonds de pension. Donc, en fait, ce sont des petits...
100 ans, mais est-ce qu'ils peuvent...
Donc c'est
est-il
un
nécessaire
peu plus compliqué,
de demander 5, 10 ou 15% de rentabilité chaque année?
Non, mais
ça n'aide pas les stratégies à long terme des entreprises.
Comme on dit trivialement, le chauffeur de taxi américain qui a mis ses économies dans un fonds de pension, il ne demande pas 10-15%, il demande qu'on lui verse une rente sur laquelle on s'est engagé. Donc, les gestionnaires de fonds de pension, c'est eux qui ont des exigences. Et c'est vrai que la mondialisation, si vous voulez, c'est pas sans risque. Quand tout à l'heure je disais la mondialisation a du bon, mais la mondialisation a aussi de grands risques. Et notre problème aujourd'hui, c'est d'arriver à réguler, et notamment à réguler la finance, parce qu'effectivement, il y a un risque de spéculation qui est un peu débridé, parce qu'il n'y a personne qui est capable de contrôler.
Voilà.
Et ce risque de spéculation va être grandement renforcé par tout l'argent qu'on injecte.
Alors Jean-Paul,
ça va être compliqué.
Jean-Paul Vigier, puisqu'on vous a retrouvé, avant qu'on fasse une deuxième pause, j'insistais sur ma question. On l'a entendu quand même dans la bouche de Marie-Christine Monnoyer et de Bruno Cyr. Chacun appelle quand même à plus de régulation. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer de ce côté?
On peut souhaitais qu'il y ait une... Mais on avait déjà tenté de le faire après la crise de 2008. Et on a fait un certain nombre de choses, mais peut-être pas suffisamment. Mais je crois que c'est certainement là un des points centraux, sûrement. Et Gaël Giraud, que je connais par ailleurs, a certainement raison quand il dit qu'il y a à trouver des façons de, comment dire, d'orienter la finance plus vers une forme d'économie plus verte, une forme d'économie plus dure, plus longue, plus longue, et qui pourrait effectivement à ce moment-là permettre peut-être les évolutions qu'on voudrait voir venir. Mais je pense que là, c'est encore un peu tôt pour dire comment ça peut se faire.
Voilà, vous n'avez pas l'air plein d'optimisme en tout cas. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Je rappelle pour ceux qui nous quitteraient maintenant le titre du livre qu'on a cité et que j'ai cité à plusieurs reprises, Illusion financière, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire. Gaël Giraud aux éditions de l'Atelier.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Un autre capitalisme est-il possible ? Point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Marie-Christine Monnoyer, professeure émérite en sciences de gestion et entre autres secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse, Bruno Cyr, lui-même professeur d'économie, et Jean-Paul Vigier, cofondateur de Finansol, et autres responsabilités, président honoraire également de la Fédération Européenne des Banques Éthiques. Alors justement, j'allais dire, et félicitations à vous parce qu'on a probablement grandement survolé des questions bien complexes, et il nous reste un petit peu de temps à la fin de cette émission pour essayer, j'allais dire, de faire atterrir le sujet ou de voir ce que chacun d'entre nous peut imaginer faire pour construire ce monde de demain. J'y tenais parce que les Français s'en plaignent d'avoir l'impression que d'éteindre leur radio ou leur télévision, les bras un peu ballants. Vous avez dit, Bruno Cyr, entre autres, donc, que l'épargne des Français avait augmenté à l'occasion de ce confinement. Évidemment, on a moins dépensé. J'ai lu ce chiffre, 55 milliards d'épargne supplémentaire. L'épargne des Français, si je ne me trompe pas, c'est plus de 5000 milliards. Ça fait quand même beaucoup d'argent. De l'argent qui, semble-t-il, dort en partie, si je puis dire, puisqu'elle serait en grande partie sur les comptes courants de chacun d'entre nous. Jean-Paul Vigier, vous avez passé une partie de votre vie avec Finansol, et je vais vous laisser représenter cette association pour convaincre tout à chacun qu'il peut faire sa part. Présentez-nous Finansol et dites-nous quelle est cette part que l'on pourrait faire.
Mon Finansol regroupe les opérateurs solidaires, financiers solidaires français, comme la FEBA dont je parlais tout à l'heure, représente en Europe. C'est-à-dire qu'il s'agit de proposer aux personnes qui le veulent, bien sûr, de donner un sens à leur épargne, c'est-à-dire à ne pas rechercher exclusivement, bien que aussi, un revenu maximum. Donc, je crois que Finansol regroupe actuellement une cinquantaine d'organisations diverses et variées, et surtout a donné un label, une sorte de garantie morale, hein, en quelque sorte, à des produits financiers. Je crois qu'il y en a à peu près 150 actuellement, qui sont présentés d'ailleurs par la plupart des banques, etc., et qui permettent à des personnes d'utiliser leur argent en lui donnant un sens. Donc voilà, je crois que c'est ça fondamentalement, c'est-à-dire un sens vers la solidarité, d'une part, et vers la protection de l'environnement, d'autre part. Je crois que ça représente à peu près quelque chose comme 15 milliards d'euros, ce qui est évidemment une goutte d'eau par rapport à l'ensemble de l'épargne française, mais qui est significative en ce sens que ça augmente tous les ans d'au moins 10%.
Quand vous dites une goutte d'eau, c'est 15 milliards qu'il faut mettre au regard des plus de 5000 milliards que j'ai cités, c'est ça ?
Les sommes que vous disiez tout à l'heure. Donc effectivement, c'est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui est, je crois, significative. Parce que je constate qu'il y a un certain nombre de gens, certes minoritaires, mais de plus en plus importants, qui se posent des questions sur la façon dont ils peuvent utiliser leur épargne et reprendre un pouvoir, d'une certaine manière, sur leur épargne, en lui donnant un sens. Et ça ne peut pas se faire en venant du haut. Ça ne peut se faire que par des initiatives locales. Ceci étant, il existe déjà, bien entendu, une finance qui, depuis très longtemps, est une finance mutuelle, mutualiste. C'est évidemment les grandes banques mutualistes qui ont été créées au XIXe siècle, dont le Crédit Mutuel, par exemple, est un exemple significatif en France. Mais en même temps, des opérations plus locales...
Il faut redire que les banques mutualistes sont des banques à but non lucratif, c'est bien ça, hein ?
Bien sûr. Voilà. Puisqu'elles ont une forme coopérative. Donc effectivement, si vous prenez l'exemple du Crédit Lyonnais, les sociétaires du Crédit Lyonnais sont en quelque sorte copropriétaires de la banque.
Alors, juste Jean-Paul Vigier, pour illustrer votre propos, essayer de le rendre le plus concret possible, si vous deviez prendre un exemple, alors je vais l'introduire de manière très caricaturale, c'est là sans partie mon métier, si on met de l'argent, on va dire, dans une banque dite classique, si on n'est pas attentif à cela, est-ce qu'au bout de la chaîne, on peut en fait participer à cette forme de spéculation, voire à des placements qui ne sont pas solidaires ou qui ne sont pas écologiques, et qu'est-ce que ça change en fait de placer son argent dans ces banques ou dans ces placements financiers qui sont éthiques ou solidaires. Prenez un exemple.
Bon.
Deux exemples peut-être extrêmes pour illustrer.
C'est-à-dire que si vous voulez placer votre argent, par exemple, dans un placement quelconque proposé par une banque, je ne suis pas sûr que vous savez toujours ce qu'il y a dans le portefeuille de ces placements.
Comme les assurances vie qui ont beaucoup de succès auprès des Français. C'est...
Pour ça, mais simplement, dans quelle entreprise est-ce qu'elles mettent? Est-ce qu'elles investissent? Est-ce que c'est des investissements qui sont tournés vers l'armement, que sais-je, le nucléaire, ainsi de suite, que certaines personnes contestent? Ou bien est-ce que c'est des valeurs d'entreprise tournées vers la santé, le progrès, etc., etc. Ou par contre, vous avez des produits financiers qui sont proposés dans lesquels il y a effectivement, d'une part, une sorte de filtre, où on élimine des entreprises qui ne correspondent pas, en quelque sorte, à l'idéologie ou à la pensée des épargnants, et d'autre part, à qui on peut donner, effectivement, une part de solidarité. C'est, par exemple, l'épargne solidaire, où il y a 10% qui doivent être obligatoirement investis dans des entreprises solidaires. L'épargne salariale, je veux dire. Voilà.
Je voulais finir votre phrase, mais après je passerai la parole à Marie-Christine Monoy. Allez-y, Jean-Paul Vigier.
Non, je voulais dire simplement qu'à partir de là, ce qu'on constate, c'est que des opérations de ce genre, c'est-à-dire des initiatives nouvelles, des mutations de la société, partent toujours de la base. Un exemple, c'est, si vous voulez, la consommation du bio, par exemple. Bon, c'est parti de la base, et absolument pas du haut, puisque le ministère de l'Agriculture a fait tout ce qu'il a pu pour le freiner. Donc, je pense que c'est un courant qui est en train de se faire, qui grossit petit à petit, qui fédère plus en plus de gens, surtout des gens effectivement plutôt, conscients de la situation, qui ne recherchent pas forcément un produit immédiat, mais qui cherchent à donner un sens à leur épargne. Alors, ça, je crois que c'est en train de se faire à partir même de la pandémie que nous avons connue maintenant.
Marie-Christine Monnoyer, je continue à présenter les choses de manière grossière, mais si on regarde, c'est plus de 5 000 milliards de l'épargne française, et encore, ce n'est que l'épargne française. Au regard des milliers de milliards qui ont été annoncés, on se dit qu'il y a là, en fait, un potentiel, on va dire, un effet de levier considérable. Est-ce une illusion c'est vrai que quand on entend Jean-Paul Vigier, à la fois on ne peut que le féliciter et applaudir dès demain, mais on se dit que 15 000 milliards, ça fait peu. Est-ce que les Français ont pas, et chacun d'entre nous, on n'a pas en fait un pouvoir de transformation complètement ignoré?
Ah, moi je suis persuadée que nous avons tous un pouvoir de transformation ignoré. D'autant plus que ce pouvoir qui vient d'être analysé par M. Vigier, qui porte sur la finance, ce qui veut dire sur l'épargne, ce qui veut dire sur l'investissement. Parce que c'est ça qui est fondamental. Quand Vigier dit il faut donner du sens à son épargne, c'est quoi le sens? C'est d'investir là où on en a vraiment besoin en 2020. C'est-à-dire ce qui est difficile, et ce qu'on disait tout à l'heure, la transition écologique.
Qui ne sont pas toujours les premiers qui arrivent à être financés aussi.
Et ben non.
Ça va mieux.
Et donc, puisqu'il faut essayer d'arriver à faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'éteindre l'incendie et d'éteindre l'autre incendie qui couve, mais qui couve rapidement, ça veut dire que cet effet-là, il est fondamental. C'est donc un vrai effet de levier. C'est d'autant plus un effet de levier qu'il me semble qu'à partir du moment où on commence à réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire des 100 euros que ce mois-ci je peux épargner, on va aussi se poser la question et qu'est-ce que je vais consommer en termes de biens agricoles, de biens de consommation pour me nourrir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre mon vélo ou est-ce que je vais prendre la voiture ou est-ce que je vais y aller à pied? Parce qu'au fond, quand on est dans la tête d'un individu, ces questions-là, elles se posent en même temps. Hein. Si je réfléchis sur il faut qu'il y ait davantage de transports en commun, il faut que les appartements et que les immeubles soient mieux isolés. C'est ça. Alors, si on met son argent à la caisse d'épargne, quelque part, on va sans doute favoriser l'habitat collectif et sans doute faire quelque chose en ce qui concerne la protection extérieure. Et en même temps, on peut décider qu'on mangera moins de bœuf ou qu'on va cuisiner un peu et non pas...
Eh bien, ça en fait des colibris, comme on dit, puisque les colibris, c'est donc ces petits oiseaux qui essayent d'éteindre les incendies en emmenant des petites gouttes d'eau. Et c'est même un mouvement en France. On fera une prochaine émission prochainement. Voilà un signe d'espoir. Je citerai enfin un dernier chiffre que j'ai vu. Plus de 170 000 milliards, c'est l'épargne des 53 pays les plus riches au monde. Ça en fait des colibris. Et là, de quoi peut-être éteindre un incendie ou faire pousser une belle forêt. Je rappelle une dernière fois le titre du livre qu'on a cité ou que j'ai cité au long de cette émission, à lire et à écouter, en tout cas son auteur Gaël Giraud, « Illusion financière, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire », paru aux éditions de l'Atelier. Un grand merci à vous de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.